Ça y est, c'est décidé, je sors de mon bocal, mais pourquoi a-t-on si peur de sortir de nos conditionnements ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de nos conversations du lundi où je poursuis avec vous la réflexion autour de ce thème fondamental des conditionnements et des déconditionnements. Et je vous ai baladé pendant quelques semaines dans mon étang, dans l'étang de mon jardin, pour vous montrer à quel point nous partageons un sort commun avec les poissons rouges enfermés dans leur bocal, c'est-à-dire que nous sommes, nous aussi, conditionnés à une étroitesse de vue sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan religieux, sur le plan moral, et que cette étroitesse de vue, finalement, peut nous rendre, en fin de compte, beaucoup plus manipulables ou manipulés, déstabilisables ou déstabilisés, influençables ou influencés. Et j'espère vous avoir donné l'envie de sortir de votre bocal, de sortir de vos conditionnements, en tout cas de sortir des conditionnements qui ne vous conviennent plus et qui vous donnent l'impression effectivement d'être beaucoup plus fragile face à ceux qui voudraient avoir du pouvoir sur vous. Donc, cette semaine, je vous emmène dans ma voiture pour vous emmener vers un lac beaucoup plus large, donc vers une perspective de vie beaucoup plus large. Mais j'avais envie de converser avec vous dans ma voiture aujourd'hui parce que une question a été posée à plusieurs reprises par plusieurs d'entre vous, et cette question c'est « Mais… » Si on se déconditionne, est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver seul ? Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver isolé ? Et ça, quand même, ça nous fait peur. Eh bien, effectivement, c'est ce que nous allons voir. Parce que si vous y réfléchissez, le conditionnement qui nous influence le plus négativement, qui nous dépossède le plus de notre propre pouvoir personnel, de notre propre autorité, de notre propre souveraineté, c'est ce qu'on pourrait appeler le conditionnement dominant, hein, le conditionnement normatif. Parce qu'effectivement, ce conditionnement dominant constitue ce qu'on pourrait appeler, en termes de sociologie, la norme sociale. Mais ce n'est pas uniquement une norme sociale. Il y a d'autres conditionnements dominants qui sont, par exemple, la norme religieuse. Il y a d'autres conditionnements qui sont la norme culturelle, la norme sexuelle, la norme vestimentaire, la norme donc de la mode, la norme de la pensée aussi. Il y a des bonnes façons de penser et puis il y a des mauvaises façons de penser qui font que, eh bien, nous appartenons à la norme ou nous n'appartenons pas à la norme. Et donc finalement, quand on décide de sortir du conditionnement normatif, du conditionnement dominant qui est véhiculé et qui est entretenu par l'éducation, qui est entretenu par l'école, qui est entretenu par le monde économique, qui est entretenu par les médias dominants qui continuent à nous rabâcher et à nous présenter toujours cette même vision du monde qui est de plus en plus étroite et qui nous restreint de plus en plus dans un bocal invisible, mais de plus en plus contraignant. Donc, quand on veut sortir de ce conditionnement normatif, de ce conditionnement dominant, eh bien, nous sommes confrontés à la peur d'être isolé, à la peur d'être rejeté par la société. Pourquoi ? Ben, tout simplement, et ça, c'est une nouvelle révélation que je voulais faire, c'est que nous n'avons pas uniquement de choses en commun avec les poissons rouges, ça, je vous l'ai déjà démontré il y a quelques semaines de cela, mais nous avons aussi des choses en commun avec les moutons blancs. Ben oui, nous sommes également des petits moutons qui avons l'habitude de vivre dans un troupeau. Et alors, ne soyez pas insultés si je vous dis que nous sommes des moutons, parce qu'en fait, de nouveau, je vais vous montrer que c'est nécessaire qu'on se sente en troupeau. Parce que quand on se sent en troupeau, on se sent en sécurité. Regardez les moutons. comment font-ils pour se protéger du prédateur qu'est le grand méchant loup? Eh bien, ils vont rester en troupeau, parce que quand ils restent en troupeau, eh bien, ils savent que le grand méchant loup, qui est un prédateur pour eux, ne va pas oser les attaquer. La masse des moutons les rend, entre guillemets, invulnérables. En tout cas, les moutons ont le sentiment d'être invulnérables, inatteignables, invincibles. Et la plus grande peur pour un mouton, enfin il y a deux grandes peurs pour un mouton, et donc il y a deux grandes peurs pour les moutons que nous sommes. La première peur, c'est que nous perdions le contact avec le troupeau. C'est-à-dire qu'en fait, de notre propre volonté, nous décidions de sortir du troupeau, de sortir de la norme et de penser par nous-mêmes, de pratiquer la spiritualité par nous-mêmes, une spiritualité qui nous convient, de pratiquer la sexualité qui nous convient, de pratiquer les relations qui nous conviennent, de pratiquer la manière de vivre en société, le rapport à la nature, le rapport aux autres, le rapport aux autres races, etc. Mais en faisant cela, nous prenons le risque de nous retrouver tout seuls à penser différemment. Et en prenant le risque de penser différemment, nous nous retrouvons isolés du troupeau et nous nous sentons à ce moment-là à la merci des prédateurs qui rôdent en permanence autour de nos vies. L'autre peur que nous pouvons avoir en tant que moutons, c'est d'être exclus par le troupeau. C'est-à-dire qu'en fait, ce ne soit pas nous qui décidions de nous-mêmes de sortir du troupeau, mais que le troupeau nous exclue parce que nous pensons, nous pratiquons différemment. Nous sommes trop différents d'eux. Et pourquoi est-ce qu'ils vont nous exclure? Tout simplement parce que, en étant différents, nous sommes en train de semer le doute dans leur esprit. Nous sommes en train de leur dire « Hé, est-ce que vous savez qu'il y a une autre façon de vivre en société que la manière dont on nous a enseigné depuis notre plus tendre enfance, depuis notre naissance? Est-ce que vous savez qu'il y a peut-être une autre façon de vivre la spiritualité et la religion que ce qu'on nous a imposé jusqu'à présent? Est-ce que vous savez qu'il y a une autre façon de vivre la culture que ce qu'on nous a proposé jusqu'à présent? Est-ce que vous savez qu'il y a une autre façon de voir la réalité? Et peut-être de la voir comme quelque chose qui n'est pas uniquement le réductionnisme matérialiste. Est-ce que vous avez une idée qu'il y a peut-être d'autres façons de vivre sa sexualité, qu'il y a d'autres façons de vivre les rapports humains à l'intérieur du couple, à l'intérieur d'une famille, à l'intérieur d'une communauté, les rapports humains entre les différentes races, entre les différentes cultures, entre les différentes religions? Est-ce que vous savez qu'il existe un autre monde que celui que vous voyez tous les jours dans le miroir déformant de la télévision, celui que vous entendez dans le miroir déformant de la radiodiffusion? Savez-vous cela? Et comme nous sommes tous insécurisés par le changement, parce que le changement fait peur, le changement c'est quelque chose qui représente l'inconnu, quelque chose que nous ne pouvons pas maîtriser a priori, eh bien, à ce moment-là, le troupeau va décider de nous exclure, de nous ostraciser. C'est difficile à dire, hein, ce mot-là. Bien. Et donc, nous nous retrouvons de nouveau seuls, exclus du troupeau cette fois-ci. Et en étant exclus du troupeau, nous risquons de nouveau d'être là à la merci des prédateurs, des grands méchants loups qui vont ne faire qu'une bouchée de nous. Et donc, pour ces deux raisons, pour ces deux peurs, nous allons choisir, même si nous devenons conscients des conditionnements dans lesquels nous sommes enfermés, nous allons choisir de rester enfermés dans nos conditionnements dominants, dans les conditionnements qui nous restreignent, parce que nous préférons avoir la sécurité de la survie plutôt que l'insécurité de la vie en plénitude. Et c'est vrai que quitter son bocal, c'est vrai que quitter le confort d'un magnifique petit étang dont plusieurs d'entre vous m'ont dit que c'était un paradis, et c'est vrai que c'est un paradis, ça va vous faire sentir dans un premier temps isolé. Ça va vous faire sentir dans un premier temps exclu de la société. Ça va vous faire sentir dans un premier temps ne plus appartenir à une communauté. Ça va vous faire sentir dans un premier temps inadapté à la société, vous devenez un nid d'adapté social, vous devenez un nid d'adapté économique. Ça va vous faire sentir peut-être en danger, de ne plus être capable d'assumer votre vie parce que vous serez seul à devoir prendre votre vie en main. Alors j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous, c'est que vous n'êtes pas seul à aspirer à un autre mode de vie. Vous n'êtes pas les seuls à aspirer à un autre mode de relation entre les individus. Vous n'êtes pas les seuls à aspirer à une autre vision du monde. Vous n'êtes pas les seuls à concevoir qu'il existe une autre façon de concevoir la spiritualité que ce que les religions classiques nous ont imposé. Vous n'êtes pas les seuls à penser qu'il y a une autre façon de concevoir les rapports entre les hommes et les femmes ou les rapports éducatifs avec les enfants. Vous n'êtes pas les seuls. En fait, certaines recherches sociologiques récentes indiquent que nous serions pratiquement 35% de la population adulte à aspirer à d'autres valeurs que les valeurs qui nous sont proposées actuellement par les médias dominants. Vous vous rendez compte? 35%. Et cette frange marginale, mais qui devient de moins en moins marginale, de la société, c'est ce que certaines études sociologiques appellent les créatifs culturels, qui a été traduit aussi en français par les créateurs de nouvelles cultures. Vous vous rendez compte que nous sommes maintenant 35% à avoir peur d'être seuls. Alors ce serait peut-être intéressant de prendre notre courage à deux mains et à oser devenir les héros de notre propre vie, parce que nous savons que sur le chemin du héros, nous ne serons pas les seuls à explorer des nouvelles dimensions de la vie en commun et des nouvelles dimensions de la vie individuelle. Alors, si ce voyage du héros vous intéresse, eh bien, je vous donnerai rendez-vous dans les prochaines semaines pour que nous explorions ensemble ce que Joseph Campbell, un des plus grands spécialistes du monde en mythologie et en récits héroïques, entend par le voyage du héros et quelles sont les qualités dont nous aurions besoin pour devenir véritablement le héros de notre propre vie.